Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco, le directeur de la Fondation Jean Jaurès Gilles Finkelstein, l'essayiste Philippe Manière et l'écrivain Wajdi Mouawad. Au sommaire ce dimanche, Moyen-Orient, une tragédie sans fin, mai 68, mai 2018, semblable ou faux semblant ? D'un côté, une dynastie façon Dallas, de l'autre, l'enfer. D'un côté, Ivanka Trump, la très blonde et souriante fille du président américain, son mari Jared Kushner, inaugurant la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. À une centaine de kilomètres plus loin, l'armée israélienne réprimant avec une brutalité inouïe la manifestation organisée dans la bande de Gaza, des dizaines de morts, des milliers de blessés, des enfants et des mots très soupesés ensuite de la diplomatie mondiale pour condamner la violence de l'État hébreu. Violence de la réaction israélienne car peur d'Israël, disait-on, devant cette marche du retour de jeunes Palestiniens armés de lance-pierres, peur pour ses frontières, peur partagée par l'Arabie Saoudite et l'Égypte, moins préoccupés désormais par la question palestinienne que par les avancées de l'Iran dans la région. Toujours ce même axe, Iran, Hamas, Hezbollah et tout près, la Syrie et son allié russe, et en face, l'improbable nouveau trio américano-israélo-saoudien. Toujours la même région du monde que la superposition des conflits rendait plus que jamais tragique. Acte 1 de cette tragédie, bien sûr, la Syrie et son meurtrier casse-tête militaire, humanitaire, diplomatique, presque 500 000 morts, plus de 10 millions de déplacés, 60% du territoire de nouveau aux mains du dictateur Bachar el-Assad avec le soutien de la Russie et de l'Iran. Acte 2, le conflit israélo-palestinien, plus que jamais insoluble. Acte 3, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et ses conséquences pour l'heure confuses. Comme l'avait résumé cette semaine un diplomate, il se passe au Moyen-Orient ce que nous redoutions, la conjonction de plusieurs perturbations jusque-là restées cloisonnées. Le tragique antique ne conduisait pas forcément vers une issue malheureuse, mais le tragique moderne, lui, que nous réservait-il ?
I want peace through strength. Today's action sends a critical message. The United States no longer makes empty threats. The United States will always be a great friend of Israel and a partner in the cause of freedom and peace.
Philippe Manière, la paix par la force, on l'a entendu, on le connaît maintenant, c'est le credo géopolitique de Donald Trump, c'est aussi celui de Benjamin Netanyahou à l'œuvre cette semaine. La fille de Trump, tout sourire à Jérusalem, les enfants morts à Gaza, c'est la double image de la semaine, une image qui produit quel effet ?
Un effet de sidération, vous le disiez à l'instant, c'est très singulier de voir cette dynastie et cette espèce de culot complètement assumé de la famille Trump et de Netanyahou et de ceux qui le reçoivent. C'est une image qu'on n'aurait pas pu imaginer avec aucun des prédécesseurs de Trump. En tout cas, il faut remonter très loin pour imaginer quelque chose d'un peu comparable. Donc ça, c'est presque choquant. C'est une insulte à l'esthétique élémentaire, au respect, enfin à tout ce qu'on peut imaginer. Bon, et d'autant plus que le même jour, et vous y insistiez à juste titre, il y avait beaucoup de gens qui perdaient la vie pour défendre leurs idées face à Israël. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je constate là une forme d'évidence, mais on ne peut pas non plus dire que tous les torts sont d'un seul côté. Oui, il y a beaucoup d'enfants armés d'un lance-pierre, mais il n'y a pas que des gens armés de lance-pierre. Oui, il y a des frontières qui doivent être respectées et ceux qui ne les respectent pas prennent des risques. Oui, c'est vrai qu'il y a une stratégie du faible qu'on peut comprendre, qui consiste à envoyer aussi des femmes et des enfants pour que ça fasse des images. Enfin, tout ça, on le sait, c'est documenté, voilà. Et puis surtout, et c'est peut-être là-dessus, je pense qu'il faut s'arrêter le plus longtemps, même si on a peine à croire que cette espèce de curieux équipé, Kushner, l'ambassadeur américain auprès d'Israël, Trump, tous ces gens-là qui manifestement sont dans un camp, clairement, puissent obtenir quoi que ce soit s'agissant d'un conflit d'une immense complexité où le sens de la nuance semble s'imposer justement au regard de cette complexité. Moi, je trouve qu'il faut bien admettre que toutes les tentatives passées ont tellement échoué, alors même qu'elles nous semblaient beaucoup plus subtiles, beaucoup plus balancées, beaucoup plus équilibrées, donc à ce titre, beaucoup plus susceptibles de réussir, que je ne vois pas pourquoi on considérait que l'approche américaine contemporaine, aussi ridiculement caricaturée, caricaturale et comment dire presque déséquilibrée soit-elle, ait moins de chances de réussir. Ce que disent les États-Unis, et encore une fois, personne n'est particulièrement bouleversé par la subtilité des porte-paroles, mais ce que disent aujourd'hui les États-Unis, c'est qu'il faut un règlement global. Je crois qu'après l'introduction que vous venez de faire, c'est difficilement contestable. Enfin, on voit mal comment on pourrait régler le problème israélo-palestinien sans que toutes les puissances qui sont autour et qui s'agitent dans la zone soient concernées par le règlement et ils prennent leur part. Et ce que disent les Américains, c'est qu'ils vont maintenant s'y atteler. Ça paraît, encore une fois, assez insensé, mais au regard des innombrables échecs de tous ceux qui avaient une approche plus subtile et plus agréable parce qu'elle paraissait moins brutale, et encore une fois plus équilibré compte tenu de la complexité de la zone, je vois pas très bien pourquoi on donnerait moins de chance à cette approche brutale, inesthétique et vulgaire qu'à toutes les précédentes qui étaient beaucoup plus charmantes mais qui ont misérablement échoué.
Ouais, je dis moi Wad.
Par rapport à ça, je pense qu'il faut il faut justement résister, il faut continuer à croire que ce qui peut nous sortir de la barbarie, c'est la réponse est toujours la même, c'est l'humain. C'est l'humain. Et l'humain nécessite un dépassement. Il faut toujours faire cet effort de dépassement, même lorsqu'on n'y croit plus, même lorsqu'on dit tous les efforts de dépassement par l'humain ont échoué. Il faut continuer parce que on ne peut pas non plus se dire bon ben alors allons-y par la brutalité et l'enfer. Ce que je me demande, d'une certaine façon, je crois que ce qui me frappe, c'est la notion de frayeur profonde, qui est celle de l'État d'Israël, qui est, et que je comprends parfaitement, c'est-à-dire cette peur de disparaître. Beaucoup de personnes qui ont vécu les camps sont encore en vie et ont trouvé dans ce territoire un endroit où ils pouvaient enfin vivre. Et donc, cette peur de la disparition est au cœur, je crois, profondément au cœur de ce conflit, la peur de disparaître. Or, je pense que comment aider, d'une certaine manière, je dirais l'État d'Israël, à être capable de regarder la question de la disparition sans tomber dans la frayeur. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, est-ce que c'est comme ça que l'État d'Israël a envie de vivre ? Est-ce que, à long terme, est-ce qu'il a envie de vivre dans la frayeur, dans la peur, entouré de gens qui vont le menacer et qui va poursuivre l'idée de résister contre la frayeur par la force? Or, je crois qu'une des manières, et là, il faudrait inventer, je sais pas, une psychanalyse politique, je ne sais même pas si elle existe.
Ça a été fait 10 fois.
Bon, voilà, c'est-à-dire amener un État au complet à être capable de regarder sa frayeur sans nécessairement tomber dans la brutalité pour se défendre contre cette frayeur. Étrangement, les Palestiniens n'ont pas du tout peur de disparaître. Les Libanais n'ont pas peur de disparaître. Les Syriens n'ont pas cette peur-là. Ils ont peur de perdre, ils ont peur d'être vaincus, mais la peur de la disparition, de l'anéantissement n'est pas dans cette présence-là. Les Palestiniens disent « nos enfants meurent, on en fera d'autres, et ils mourront encore, et on en fera encore d'autres, et ils mourront encore, et on continuera comme ça. Mmh. » Et c'est cet étrange déséquilibre qu'il y a entre, d'un côté, un État qui est très puissant militairement et qui a peur de disparaître, face à une population qui est démuni, militairement parlant, qui n'a pas les moyens de se battre, mais qui trouve dans sa démographie une force qui est justement la menace de l'autre. Et c'est cette espèce de clé qui ne peut être amenée que par l'extérieur, que par les États-Unis, que par l'Europe. Elle ne peut être... C'est véritablement une...
Elle ne peut pas être endogène.
Non, et elle doit être de l'extérieur.
Est-ce que Franz-Olivier Gisberge et Finkelstein, finalement, résumaient pas mal les choses, c'est de se mettre dans le pouls en écrivant qu'avec cette brutalité-là et ce slogan géopolitique-là, c'est-à-dire la paix par la force, Trump est en train de faire passer l'Iran pour une victime des impérialistes américains et de ces sionistes dont viendrait tout le mal. C'est Franz-Olivier Gisberge qui parle et qui écrit. Mais d'un autre côté, Trump voit juste lorsqu'il s'inquiète des ambitions iraniennes.
Je crois que c'est la question, en réalité, que c'est aujourd'hui la question centrale, qui est celle qui permet le plus de comprendre le comportement des différents acteurs très compliqués, à la fois de la région et même en dehors de la région. Donc si on part de ce qui s'est passé cette semaine, sidération, émotion, évidemment, et un sentiment très étrange, très fort, d'isolement comme peut-être jamais on en a connu des Palestiniens. Isolement par rapport aux pays arabes, leurs voisins, leurs premiers voisins, grands pays, l'Égypte, on parle du blocus de Gaza, il y a un double blocus, et le blocus le plus hermétique, c'est celui qui est entre l'Égypte et Gaza. Isolement par rapport aux pays musulmans, parce que la question centrale est la question de l'Iran. L'Arabie saoudite est un allié plus qu'objectif aujourd'hui
d'Israël
et ne finance plus les Palestiniens. Isolement par rapport aux grandes puissances, avec une Russie qui s'en désintéresse et des États-Unis qui, plus que jamais, sont d'un côté. Et donc, la réalité cruelle est qu'aujourd'hui, le sort des Palestiniens n'intéresse à peu près plus personne. C'est ça la réalité. Les Européens et les Français sont à peu près les seuls à maintenir une position équilibrée, le problème étant beaucoup plus un problème de trouver un chemin que de se mettre d'accord sur le but. Parce que les contours de ce que pourrait être un accord de paix, on les connaît maintenant depuis des années. Le problème est celui du chemin. Et les acteurs internes en Palestine en ont plus de légitimité, ou une légitimité très faible.
Ou en tout cas avec une Palestine aujourd'hui coupée en deux. C'est-à-dire que celle de Ramallah n'est pas la même que celle de Gaza.
Par ailleurs, incroyablement divisée. En Israël, le camp de la paix existe encore un peu, mais il n'a plus aucun débouché politique. Et en dehors, il n'y a que l'Europe, que la France d'une certaine manière, mais qui, là aussi, si on regarde les choses avec lucidité, pèse très peu.
Elisabeth Rodinesco.
Tout ça est exact, mais je pense, vous avez répété à juste titre plusieurs fois le mot tragique. On est dans l'essence de la tragédie. Dans cette histoire, comme le disait Pierre Vidal-Naquet, qui comparait il y a déjà cette guerre perpétuelle à Homère, les Grecs et les Troyens. C'est insoluble. Et je pense que la pire catastrophe, alors indépendamment de ces massacres, de cette superposition horrible d'images, avec d'un côté une célébration mondaine et de l'autre côté ces massacres, ce qui est épouvantable, c'est ce que devient Israël. C'est-à-dire, ça n'a plus rien à voir avec le sionisme historique qui était l'émancipation des Juifs, qui était liée au socialisme, l'esprit du kibboutz. Et même après, après Exodus, quand tous les rescapés de la Shoah sont arrivés, ça n'a plus rien à voir, Israël d'aujourd'hui. C'est en train de devenir, hélas, un pays religieux et nationaliste et raciste, ce qui est le contraire du sionisme, ce qui est le contraire de l'esprit juif. Alors, la peur de disparaître, certes, mais quand on est en Israël, ils sont très contents, la majorité. L'opposition des Israéliens, l'opposition de gauche, c'est tragique pour eux, parce qu'ils n'ont de moins en moins voix au chapitre. Et je pense qu'Israël est en fait en train de devenir l'équivalent d'une dictature. C'est encore démocratique.
Alors,
mais
Philippe Manière.
D'une des dictatures arabes qu'ils combattent.
Philippe Manière.
Voilà. Non, je vois bien tous les reproches qu'on peut adresser à Israël, mais enfin, il faut reconnaître qu'il faut aller assez loin pour trouver quelque chose qui est aussi démocratique quand on s'éloigne d'Israël. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a quand même un parlement, où il y a des élections libres, où il y a des
bien
libertés
sûr,
publiques.
Bien sûr, pour le moment, monsieur.
Les... Non, mais attends.
Vous allez voir.
Si vous considérez qu'on peut voir une dérive qui est incontestable, et dont on a observé un certain nombre de signes, continuer à l'infini, oui, Israël n'est plus une démocratie.
Mais, si,
mais
c'est
aujourd'hui,
encore, pardon,
c'est
encore
aujourd'hui,
une démocratie.
C'est incontestablement ce qu'on trouve de plus démocratique à 10 000 km à la ronde, mettons 5 000. Moi je veux bien qu'on critique Israël, et il y a 1 000 choses à reprocher à Israël, et cette dérive que vous pointez, qui est conservatrice, qui est matérialiste en même temps qu'elle est religieuse, qui est assez singulier, elle existe. Mais enfin, on ne peut pas non plus nier cette réalité qu'il n'y a rien qui ressemble à Israël dans l'ordre de la démocratie dans le coin. Il n'y a rien, il n'y a juste rien. Donc, je ne dis pas qu'Israël n'est coupable de rien, je ne dis pas qu'Israël a tous les droits à ce titre, mais je dis qu'en Israël, quelqu'un qui attente aux libertés publiques, tout n'est pas parfait bien sûr, mais peut avoir des problèmes, que les militaires qui ont été convaincus d'avoir mal agi, pour certains, ont été condamnés. Enfin, il ne faut quand même pas non plus oublier qu'il y a cette réalité et qu'elle contraste avec ce qui se passe autour. Maintenant, je voudrais revenir un très court instant sur ce qui a été dit sur la peur d'Israël, qui effectivement est une clé fondamentale. elle est quand même un peu justifiée par la réalité, encore une fois, géopolitique et même géographique élémentaire. C'est-à-dire que Israël est à peu près entouré d'ennemis. Pardon de rappeler cette évidence. Et il y a en plus un ennemi relativement nouveau par rapport à l'histoire d'Israël, ce n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans, qui est très puissant, qui est capable de se doter de l'arme atomique et qui, tous les matins ou presque, annonce son intention de détruire Israël. Pour ne pas être israélien, je peux, me semble-t-il, l'Iran, bien sûr, j'essaye de me mettre à leur place sans biais épistémologique, je ne suis pas israélien, mais je me dis que si j'avais si près de mes frontières un État aussi apparemment, parce qu'on, bien sûr, après on peut dire que tout ça, c'est de la gesticulation politique interne à l'Iran, etc. Mais enfin, l'Iran est un pays très puissant, très armé, et qui dit tous les matins qu'il va détruire Israël, pour faire simple. Donc, moi, il me semble que faire le procès d'Israël au sens où Israël aurait tort de s'inquiéter n'est pas complètement raisonnable. C'est l'histoire d'Israël,
c'est une histoire. Je n'ai pas dit ça.
Non, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que cette peur disparaît. Je la reconnais. Je dis que, en effet, je la comprends. Ce que je dis simplement, c'est est-ce que c'est possible de regarder la question de la peur de disparaître sans avoir pour réponse à cette peur-là une brutalité? Est-ce que c'est possible de regarder ça sans passer précisément par une surenchère d'année en année, par de plus en plus de brutalité, qu'elle soit symbolique ou militaire ou réelle? Je ne dis pas que, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour Israël. Au contraire, ça je le reconnais totalement. Ça, c'est très important.
C'est toute la question en effet de savoir comment dépasser cette brutalité-là. Soyons concrets. Est-ce qu'en effet les États-Unis restent les maîtres du jeu dans cette région du monde? Est-ce que, en effet, comme le dit Donald Trump, la reprise d'un processus de paix reste dans le calendrier de la diplomatie américaine? Et quelle serait cette paix-là, Finkelstein, est-ce qu'on est toujours sur une solution à deux États? Et quelle serait cette solution-là, précisément?
Je crois qu'il n'y en a, pas d'autre. Enfin, s'il y en a une, je crois qu'il y en a une et il faut inlassablement...
Les Palestiniens n'y croient plus beaucoup.
Mais il n'y a pas que les Palestiniens. Quand on regarde l'évolution depuis des années, c'est difficile de garder un espoir sur une solution, quelle qu'elle soit. Bon, mais si solution il y a, elle est là, et donc il faut continuer. Le problème, je crois que n'est pas, ou est moins, de savoir quel est le but que de savoir quel est le chemin. Comment on fait pour justement basculer dans une situation de peur,
quel est le chemin? Est-ce que ça passe nécessairement par un leadership de la diplomatie américaine?
Alors, ça passe. Est-ce que les acteurs eux-mêmes, d'abord, en Israël, en Palestine, trouvent les ressources pour avoir, comme ils l'ont eu par le passé, des leaders qui sont capables de surmonter cette peur de disparaître pour les uns, tout un État. Dans la situation actuelle, sans doute pas. Et donc, c'est de l'extérieur. De l'extérieur, dans l'extérieur proche, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de solutions non plus. Et dans l'extérieur plus lointain, dans les grandes puissances, on peut pas dire que ce soit le chemin que prennent les États-Unis aujourd'hui. Donc l'Europe peut-être a un rôle plus important. Elle a un intérêt, pas seulement à ce qui se passe en Israël et en Palestine, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est plus fort que beaucoup d'autres pays, mais son intérêt est inversement proportionnel à ses moyens. Et donc, elle est souvent sur des positions qui sont justes, mais elle n'a pas de levier. Et donc, le constat, au jour d'aujourd'hui, est un constat assez désespérant et assez désespéré. Donc, il faut essayer de maintenir la flamme du dialogue et de trouver inlassablement les voies...
Alors, Elisabeth Roudinesco, puis Philippe Magnat.
Je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument complètement dépassé de dire qu'Israël est la seule démocratie de cette région. Évidemment, évidemment.
C'est-à-dire, on ne comprend pas très bien.
Vous êtes d'accord ou pas d'accord?
C'est évident.
Il est évident qu'Israël est la seule démocratie.
Je le rappelle parce que vous sembliez le mettre en doute.
La question, pardon, n'est plus du tout de dire aujourd'hui Israël est le seul pays démocratique de cette région, ce qui est de l'ordre de l'évidence. C'est d'essayer de comprendre de façon beaucoup plus claire comment Israël, héritier du sionisme, héritier, quatrième génération aujourd'hui des rescapés de la Shoah, peut en arriver à défendre par ce gouvernement, qui est d'ailleurs très majoritaire, peut arriver à défendre des positions qui sont contraires à ce qu'était l'idéal du sionisme. Je ne me situe pas dans... de cela. Mais je voudrais dire quand même une chose. Trump est évidemment une catastrophe, mais il est beaucoup plus soutenu par les évangélistes qui trouvent dans cette idée de terre promise la réalisation religieuse de la Bible que par les juifs américains. Dernier point très vite, Israël ne représente pas la diaspora juive. Je ne me sens pas représentée par Israël. Donc les juifs, ça n'est pas que Israël, c'est le monde entier. Et c'est une catastrophe pour tout le monde, cette politique. Parce que ça fait monter l'antisémitisme, ça fait monter le racisme de tous les côtés. Et c'est une affaire européenne.
Une affaire européenne. Oui. C'est l'espoir, en tout cas, d'un certain nombre de dirigeants cette semaine qui se sont retrouvés, notamment le sommet des 28 à Sofia, qui n'était pas sur le sujet spécifiquement de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais bien sûr, il en a été question. La crainte, bien sûr, aujourd'hui, Philippe Manière, c'est que si l'Iran décidait de se retirer de l'accord et de reprendre clandestinement l'enrichissement d'uranium, cela pourrait pousser l'Arabie Saoudite à faire de même. Et là, clairement, on est dans une escalade qui conduirait à la guerre. Quels sont les signes aujourd'hui d'une possibilité, seulement d'une possibilité, d'une désescalade ?
Je n'y crois pas beaucoup, mais pour être très honnête, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'aurais préféré que cet accord iranien, qui n'était pas parfait, mais qui était pas mal dur, et je regrette qu'il ait été dénoncé par les États-Unis, mais il faut bien reconnaître qu'il y a un argument de l'administration américaine qui n'est pas ridicule, c'est que cet accord, il durait pour encore très peu de temps. Dans 7 ans, l'Iran retrouvait sa liberté. Donc, que ce soit en 2018 ou en 2025, la question de l'avenir de l'armement de l'Iran se pose. Ça aurait été plus confortable de repousser le sujet et la discussion à quelques années pour savoir ce qu'on faisait après 2025. Une partie l'a dénoncé d'une manière unilatérale exagérément agressive, c'est regrettable. Enfin, de toute façon, ce problème n'aurait pas été réglé jusqu'à la fin des temps par le seul maintien de l'accord qui préexistait. Donc, moi, je vois mal comment on peut maintenant faire l'économie d'une espèce de grande remise à plat, effectivement, de qui fait quoi dans la zone, quelles influences face auxquelles. Et on voit bien que beaucoup de choses dans cette matière, on l'a dit depuis le début de l'émission, ont beaucoup changé. Alors maintenant, je voudrais quand même revenir un instant sur ce que disait Gilles, qui est évidemment... principalement juste, c'est-à-dire qu'on sait où on va, mais c'est le chemin qui compte. Oui, mais enfin, c'est vrai, c'est faux malgré tout. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement où on va. C'est jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on s'est approché d'un plan de paix, on a quand même buté sur des sujets, sur le droit au retour, sur le statut de Jérusalem. Enfin, ce sont des choses qui sont considérables et qui n'ont jamais été purgées, sur lesquelles il n'y a jamais eu vraiment d'accord. En réalité, pour dire les choses, chaque fois qu'on a eu à portée de main un accord jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on avait soigneusement évité les vrais sujets, c'est-à-dire ceux qui fâchent.
Ouais. Donc il pourquoi, est faux de dire qu'on a aujourd'hui une solution à deux États qui est prête, verrouillée, méticuleuse, si dans un tiroir.
Moi, j'ai longtemps pensé, quand j'étais petit, que c'était insensé que ces gens-là ne se mettent pas d'accord. Et il suffit d'aller là-bas pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour comprendre que c'est impossible ou très difficile en tout cas. Et encore une fois, si c'était facile, y a tellement de gens qui seraient heureux que ça se fasse qu'on aurait trouvé la solution. C'est d'une immense complexité et c'est pas seulement le chemin. Oui, il y a le chemin, mais même l'objectif où on va, on n'en est pas sûr. Et je reviens sur un dernier point qui a été évoqué par Gilles Finkelstein qui est très juste, c'est la question de la capacité au leadership. Alors il y a un leadership israélien qui a beaucoup d'inconvénients, mais au moins est-il incontesté. Alors là, pour le coup, on peut ne pas aimer Netanyahou, mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'a pratiquement plus d'opposition.
C'est ça qui est grave.
Non, mais c'est très regrettable du point de vue de ce qu'on peut préférer en termes de politique domestique israélienne. Mais puisque la question était, avons-nous des leaders qui ont un mandat pour négocier ? Netanyahou est clairement le leader d'Israël, probablement trop à vos yeux comme aux miens. Mais enfin, c'est un fait qu'il y a un patron d'Israël et qu'il est soutenu par Trump sans réserve. Ça a plein d'inconvénients, mais il y a un patron d'Israël. Côté palestinien, en revanche, les choses n'ont jamais été aussi catastrophiques. C'est-à-dire, qui peut représenter les Palestiniens? On sait que le divorce entre la Cisjordanie et Gaza est considérable. On sait à quel point Gaza n'a pas d'autre possibilité que de s'en remettre à des forces externes qui sont pas particulièrement pacifiques. Donc, vraiment, sur ce critère, on n'a jamais été si loin d'une possibilité de négociation. C'est pour ça, et je reboucle là-dessus par rapport à ce que je disais au tout début de l'émission, que aussi peu désirable que ça puisse paraître du point de vue intellectuel et esthétique, une solution ne me semble pouvoir être imaginable aujourd'hui que imposée, puisque on n'a personne pour négocier.
Donc imposée, pour soit très clair, par Benjamin Netanyahou avec les États-Unis, enfin, Donald Trump.
Il est impossible qu'Israël impose à soi seul une solution.
Donc,
mais il faudrait en tout cas que les
États-Unis de Donald Trump
obtiennent des autres puissances bienveillantes à l'endroit de la zone, mais qui jusqu'à maintenant étaient spécialement impuissantes, qu'on trouve une solution qui soit malheureusement imposée à ceux qui n'ont pas de représentants pour négocier.
Gilles Finkelstein, et puis Wajdi dis-moi, Wad.
Oui, une ou deux notations. Netanyahou est un leader.
Oui.
Et un leader légitime, on peut le regretter. En revanche, le mandat pour négocier, il ne l'a pas et il ne le veut pas. Donc c'est tout le tragique de cette situation, sans parler des divisions et de la perte de légitimité qu'il y a de l'autre côté. Si on revient sur la question, et je crois que c'est la question centrale, hein, quand on dit c'est quoi la contradiction principale et les contradictions secondaires, la contradiction principale de la zone, celle qui, encore une fois, structure le comportement de beaucoup d'acteurs aux intérêts contradictoires, c'est la question de l'Iran. La crainte, la vraie crainte d'Israël, elle est aujourd'hui beaucoup plus l'Iran que Gaza, évidemment, et même que tous ses voisins plus proches. Le comportement de l'Arabie Saoudite, je l'ai dit, c'est beaucoup plus l'Iran que tous les autres acteurs, y compris le comportement de la Turquie, qui est très dur sur Israël, mais qui est très dur sur Israël, puisqu'elle veut conquérir l'opinion publique du monde arabe, mais qui s'affronte avec la Syrie. Bon. Et donc, c'est vraiment ce qui domine, je crois, c'est la question de l'Iran, c'est ça qui structure. Alors, pour partie, c'est l'opposition entre le monde sunnite et le monde chiite, mais ce n'est pas que ça, puisque ça dépasse. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, la question centrale, et c'est pour ça que la manière dont cette question, de toute manière, allait se poser, Philippe Manière a raison, mais je crois qu'elle a été posée peut-être au mauvais moment et d'une mauvaise manière, et que donc, là encore une fois, l'Europe a un rôle très important.
Moi je dis, Mouawad, ce que les États-Unis de Donald Trump veulent infliger à cet Iran, que vous regardez forcément particulièrement, puisque vous êtes Libanais, vous inspire quel commentaire ?
Eh bien, je vais répondre par le côté, parce que les Grecs étaient convaincus d'une chose, c'est que quelqu'un qui est envahi par l'hubris, hein, la démesure, et c'est inutile d'essayer de le ramener à la raison, il n'y arrivera pas. Donc la seule façon, c'est de l'amener jusqu'au point ultime de la démesure, au moment où il va toucher la catastrophe, on ne peut pas être plus démesuré que ça, à ce moment-là, la catastrophe lui tombe dessus. C'est-à-dire que les Grecs croyaient une chose, c'est que, contrairement au monde chrétien qui dit « repentez-vous, l'enfer arrive, vite, repentez-vous », les Grecs disaient au contraire « allez-y jusqu'au bout, parce que de toutes les façons, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez plus reculer, vous êtes trop enfoncé dedans ». Donc toute la question, moi, la question que je me pose vraiment très concrètement, c'est sommes-nous dans le monde des dieux grecs ou celui du monde chrétien ? C'est-à-dire, est-il possible de revenir en arrière, vite, avant l'enfer ? Ou au contraire, les dieux grecs ont-ils raison et de toutes les façons, il faut aller jusqu'à la catastrophe ? Je ne dis pas que je la souhaite du tout, mais par rapport à la question que vous posez, ça, je vous réponds par la terrible tension dans laquelle cette situation, à la lecture de cette situation, et quand je vais au Liban ou quand je vais en Israël, dans lequel ça me met. En effet, l'impossibilité de solution ouvre un gouffre qui est celui de la catastrophe qui s'approche de plus en plus.
Elisabeth Rodinesco. Bah,
évidemment, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, mais nous sommes les héritiers. Je connais bien le Liban. Enfin, nous sommes les héritiers et des Grecs et du judéo-christianisme. Donc, ce sont les deux. C'est pour ça que je citais Vidal-Naquet. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais j'ajouterais aussi que c'est au moment où c'est le pire, où la catastrophe arrive, que quelquefois la solution arrive aussi. Voilà. Enfin, c'est quand il y a le pire que ça peut arriver.
Vous êtes d'accord avec cette analyse-là, Gene Finkelstein ?
Alors, moi qui connais beaucoup moins bien.
je vous ai vu tiquer, c'est pour ça que je donne la parole.
Je n'en suis pas sûr. L'hubris, sans aucun doute. Mais il y a d'abord des divisions à l'intérieur même de l'Iran et des différentes fractions du pouvoir iranien qui sont réelles. Et il y a des intérêts. Et les intérêts, parfois, ça compte. Et l'intérêt, bien compris, de beaucoup d'Iraniens est dans ce qu'a été, en gros, l'accord précédent, c'est-à-dire le contrôle, et un contrôle sévère sur l'arme nucléaire, et enfin sur les recherches, et d'un autre côté, une ouverture commerciale. Et donc, on peut ne pas aller jusqu'à
l'hypothèse de l'hubris.
Voilà, et en tout cas,
je ne sais pas si c'est
dans le monde chrétien, mais en tout cas, dans les intérêts bien compris.
Brièvement, et en passant à la seconde partie.
Je suis très intéressé par l'approche de Wajdi dans cette affaire, parce que c'est... Je crois qu'on peut résumer les tentatives très nombreuses qui ont échoué jusqu'à maintenant de régler le problème au Moyen-Orient, en particulier celles qui sont portées par l'Europe, comme étant des tentatives qui ressortissent alors profondément à la vision chrétienne. C'est-à-dire, il faut arrêter avant la cata. Et dans le fond, l'approche américaine, elle est presque symétrique, elle est presque celle des Grecs. Et d'ailleurs, on retrouve l'eschatologie de tous ces réformés particuliers qui espèrent que les Juifs retournent en Israël pour précipiter l'apocalypse. Donc tout ça converge dans une idée qui est, de toute façon, on n'arrivera pas à reculer, de toute façon, tout ça est dingue, allons jusqu'au bout, mettons la pression, on verra bien ce qui ressort. Je ne dis pas que c'est génial. Je dis que, encore une fois, l'appréhension chrétienne a tellement échoué et que malgré son côté peu désirable, l'appréhension grecque peut avoir du sens comme seule alternative qui n'a pas encore été essayée. Voilà, pardon. J'espère évidemment qu'il n'y aura pas de catastrophe.
Juste un petit point.
Elisabeth Trinesco.
Trump n'est pas un personnage tragique, c'est un personnage comique. Donc je crois que là, il faut. Il n'est pas tragique.
La tragicomédie est un genre.
Parfois, il n'y a pas loin de l'un à l'autre. C'est l'héritage de Shakespeare.
Bien, quittons ces discussions littéraires. On va quitter le chaos moyen-oriental pour le petit hexagone. La France de 2018, non pas chaotique, mais agitée par des mouvements d'hiver et printanier qui rappelle à certains un autre mois de mai.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Regardez les images, mais coupez le son. Regardez jeudi 17 mai 2018 les images de la faculté de Rennes 2 bloquées par des barricades, les examens annulés. Regardez les perturbations dans les transports de la 10e séquence de grève perlée. Regardez cette semaine la nouvelle opération d'expulsion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Grenades lacrymo, barricades, 19 escadrons de gendarmerie et une dizaine de squats évacués. Comme un parfum de mai 68, disaient ces images. Mais le son, lui, que racontait-il? Entendait-on, comme en mars 1968, le journal Le Monde nous raconter une France qui s'ennuie? Nous raconter un gouvernement fort, sans opposition? Nous raconter l'attente d'un changement profond? À l'école, à la maison, en société, au bureau, dans les institutions de la République. En 1968, Raymond Aron parlait d'une révolution introuvable. En ce dimanche 20 mai 2018, un peu après 11h, dans un petit studio de France Culture, il restait donc à trouver, ou non, la révolution.
Actuellement, la marche des trains est très fortement perturbée à la SNCF sur la banlieue Montparnasse et Saint-Lazare.
Les cheminots de la SNCF donnent le coup d'envoi d'une contestation sociale de grande ampleur. Le trafic ferroviaire est très impacté ce matin.
La faculté des lettres de Nanterre est fermée. La date de la reprise des cours ne sera fixée qu'ultérieurement.
Quatre universités sont toujours bloquées depuis hier soir. C'est au tour du bâtiment principal de Sciences Po Paris d'être occupé.
Des barricades, des voitures brûlées, des étudiants qui bombardaient de pavés les forces de l'ordre, qui ripostaient avec des grenades lacrymogènes.
Une deuxième opération d'expulsion est en cours ce matin à Notre-Dame-des-Landes. Une dizaine de squats, de lieux de vie des zadistes sont visés.
Mai 68, mai 2018, écoutez la ressemblance ou la différence. Les grèves SNCF, les blocages de fac, les forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes. Pour vous, Elisabeth Roudinesco, vous qui avez mieux que quiconque autour de cette table vécu cette période, mai 2018, c'est un remake, une parodie de mai 68 ou juste cela n'a strictement rien à voir?
Ah si, ça a à voir. Ça a à voir simplement... Pour avoir vécu les événements et occupé la Sorbonne, non pas l'Odéon, mais la Sorbonne, il y avait évidemment une contestation parfaitement légitime du côté des étudiants, et en lettres notamment, pour arrêter cet enseignement ridicule qu'on nous délivrait. Pour vous donner une idée, dans le secteur lettres, je faisais des études de linguistique, je le dis très vite, on avait des professeurs qui étaient des mandarins qui répétaient leur polycopier chaque année et qui interdisaient de lire la modernité. Par exemple, on ne pouvait pas considérer, on pouvait pas lire Proust, on pouvait pas, bon, parce que ça s'arrêtait fin 19e siècle. Passons. Donc il fallait mettre fin à tout ça. Alors maintenant, on ne peut pas aujourd'hui, pas surtout pas moi, porter un jugement sur cette jeunesse en révolte, parce que sinon, moi qui n'étais pas exactement en révolte à l'époque, mais dans la certitude qu'il fallait que ça change, je ne vais pas me mettre à les critiquer. Maintenant, du point de vue historique, il y a évidemment une chose très différente. En gros, en 68, on ne pensait pas subjectivement ni au chômage, ni à tout ça. Moi, je venais de la bourgeoisie. Et ce qui était frappant, c'était la révolution rêvée. Voilà. J'étais ni maoïste, ni trotskiste, ni rien du tout. Mais mai 68 a été un très grand moment d'éblouissement. Parce que, pour ma génération en tout cas, revoir les images de 1936, le moment où la classe ouvrière qui existait encore, mais dont on sentait bien que ça n'avait plus rien à voir, revoir ces images, revoir cette jonction, et l'idée que c'était tous les secteurs, et se promener dans Paris vide, ce que j'ai passé mon temps à faire, c'était inouï. Et une chose est très juste qui a été dite, c'était, comme le disait très bien Michel de Certeau, c'est une prise de parole. Donc moi, personnellement, j'ai jamais pensé que c'était une révolution. Mais en tout cas, une grande prise de parole.
Alors, continuons dans cet exercice.
Et qui a été positive.
Hein. Essayons d'avancer dans cet exercice comparatif. Je vous ai vu cette semaine, Elisabeth Roudinesco, plutôt je vous ai revu dans un merveilleux documentaire d'ailleurs de Virginie Linard, fille de Robert Linard, qui est l'auteur d'un film sur l'utopie universitaire de la fameuse fac de Vincennes, cette fac sans mur, sans limite d'âge, d'horaire, ouverte aux vieux, aux enfants, aux étrangers, où l'on trouvait à la fois des gens comme Lacan, comme Michaud, comme Deleuze, comme Pasolini,
Michel de Certeau, Foucault.
Et dont vous avez parlé à l'instant, tenter autre chose, mais avec cette excellence-là et cette créativité-là, est-ce que vous retrouvez ces éléments dans ce mois de mai 2018, Philippe Manière ?
J'ai pas l'impression. Effectivement, je pense que Alors après, c'est toujours difficile de savoir qui sera connu dans 50 ans. Moi, je suis incapable, parce que je dois dire, j'ai pas passé un temps fou dans les universités occupées depuis 3 semaines, mais je suis incapable de savoir s'il n'y a pas un Deleuze ou un De Certeau dont, dans 50 ans, nos neveux disserteront savamment. Comment le savoir ? Ce qui m'apparaît, en revanche, c'est qu'on a affaire, alors vous le disiez, je pense que c'est très important ce que vous disiez, Elisabeth Roudinesco, on avait affaire à un moment d'émerveillement, à une prise de parole, à un moment particulier de l'évolution de la société française. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui me semble assez différent, avec des revendications qui sont assez spécifiques, catégorielles, voire triviales. C'est rien de déshonorant, je trouve très normal qu'on ait envie de gagner plus ou d'avoir plus de chaises où s'asseoir. Mais il me semble que la dimension utopique, prise de parole, appréhension de la société dans ce qu'elle a de bien et de mauvais d'un point de vue global n'est pas vraiment présent dans ce que je constate aujourd'hui. Mais je peux me tromper parce que, je n'ai pas fréquenté très assidûment les mouvements. Si, on le voit dans la ZAD, on voit quelque chose qui est ressorti à l'utopie, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais alors là, on est sur quelque chose qui est ennuyeux parce qu'il y a eu ça en 68, mais dans des proportions bien moindres, me semble-t-il, parce qu'il y a un mélange d'utopie et de violence délibérée à la ZAD. Il y a une partie de l'occupation de la ZAD qui est alors pour le coup révolutionnaire au sens de la violence exercée contre l'État et de la résistance au pouvoir. Ce qui existait forcément un peu en 68, mais qui, et je m'en remets à vous, et
c'était très violent.
Il y avait ces c'est Benjamin Stora qui rappelait récemment qu'il y avait cette radicalité-là aussi
mais
dans les esprits de mai 68.
Ce que rappelait aussi Benjamin Stora, c'est que cette radicalité, elle était là, elle n'était pas principale, elle n'était pas essentielle, et vous le dites, c'était une espèce de prise de conscience collective avec des émerveillements de jeunes gens qui se posaient des questions radicales sur la société, mais qui n'étaient pas principalement radicaux. Il n'y avait pas d'envie de tout casser, alors, me semble-t-il.
Répondez rapidement, Elisabeth Roudinesco.
J'ai essayé de résumer. Rapidement. On était dans un film de Godard en 68. Aujourd'hui, on est dans Les Misérables de Victor Hugo. Ça n'a strictement rien à voir. On a une société terrifiante du point de vue des inégalités et avec une désespérance. Voilà. Il y a des gens de plus en plus pauvres et des gens de plus en plus riches. Je ne suis pas en train de faire le procès de la richesse, etc. Mais c'est une réalité. Et ce qu'on voit... Alors,
peut-être rappelons des chiffres. On a à la fois, c'est vrai, un chômage des jeunes aujourd'hui supérieur, c'est-à-dire près de 22% quand la moyenne nationale est autour de 9%. Et en même temps, on pourrait vous dire qu'on a aussi une classe d'âge qui accède au baccalauréat, à l'université, qui est infiniment supérieure à ce qui était le cas en 68.
Mais je sens un désespoir. Dans toutes les commémorations, entre guillemets, où je suis allée, j'ai senti ce désespoir, en effet, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas tourné, c'est une révolte. Et il faut absolument en prendre la mesure, parce qu'elle est européenne, elle va produire du populisme, regardez ce qui se passe en Italie, et puis on est dans une situation aujourd'hui où on n'a pas d'opposition politique. C'est-à-dire qu'en 68, on voyait venir la social-démocratie, on voyait bien qu'il y avait une solution politique à cette révolution. Bon. Tandis que là, on a au fond un président qui fait sa politique et qui n'a pas l'air de s'occuper très bien de la question sociale.
Ce que vous soulignez, Elisabeth Roudinesco, c'est ce que souligne également le magazine L'Obs cette semaine, partenariat avec notre radio France Culture, avec ce dossier sur cette génération radicale qui défie Macron, qui rêve de détruire le système. Alors bien sûr, les Black Blocs, les indigènes de la République, la génération identitaire, ces radicalités de 2018, Gilles Finkelstein, elles sont comparables ou non à celles de 68?
Bon, il se passe quelque chose, il se passe des choses. Et donc, ce serait dangereux de le négliger et on y reviendra. Le comparer à mai 68, je pense que c'est absurde. Mais totalement absurde, c'est une faribole. On est le 20 mai 2018. Qu'est-ce qui se passait au même moment en 1968? On était 7 jours après le 13 mai, ou après une semaine de barricades et d'affrontements extrêmement violents, 1 million de Français, notamment de jeunes, venaient soutenir les étudiants. On était quelques jours, 3 jours avant le 23 mai, la grève générale, 10 millions de salariés français en grève, la plus grande grève de l'histoire de notre pays. Et on était 8 jours avant que le général de Gaulle, que le pouvoir politique vacille, avec le départ du général de Gaulle à Baden-Baden. Donc, quand on fait cette chronique des événements et qu'on le compare à ce qui se passe aujourd'hui, on voit que le moment n'a rien à voir. Et même si on va au-delà du moment de la chronologie, la situation elle-même, je crois, a peu à voir. C'est vrai du point de vue idéologique. Le fond de l'air est rouge, disait Chris Marker. Le fond de l'air est plutôt brun aujourd'hui. Et cette projection dans un avenir désirable qui était très présente en 68 est aujourd'hui totalement absente. C'est vrai de la situation de la société, l'archaïsme des relations, aussi bien dans l'entreprise, dans le couple, dans la famille, y compris en politique, n'a plus rien à voir avec ce qu'est notre société. Et enfin, y compris sur le pouvoir politique, on avait un pouvoir politique qui était, pour reprendre la formule que Lionel Jospin avait utilisée après, qui était usé, fatigué, vieilli. Ça faisait 10 ans que le général de Gaulle était là. Il allait avoir 80 ans bientôt. On est dans une... Donc tout ça, je crois, il se passe des choses, mais comparé à mai 68, ça n'éclaire pas. Je pense que c'est exactement l'inverse à égard. Donc, tordons le cou à ce cadre. Donc,
on regarde les images, mais dès qu'on met le son, on entend la différence. Ouais, je dis moi, Wad.
Je suis d'accord. Je crois que le malheur de ce qui se passe en ce moment, c'est que ça arrive à un moment de commémoration d'un événement qui, en impression générale et en superficialité, on se dit, ah, c'est la même chose, des jeunes, mais, ah, tiens. Mais en fait, c'est un malheur que ça arrive au moment de cette commémoration. Et pour revenir sur cette commémoration, enfin, moi, ce qui me tient à cœur, c'est l'absence de la parole accordée, donnée, à cette jeunesse aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui... j'aurais trouvé très intéressant par rapport à cette question que nous ayons invité quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui. Je pense que ça aurait été vraiment passionnant de l'écouter.
C'est une faille dans le casting de l'esprit public.
Je pense que c'est... Mais pas que ici. Je crois que ce que vous avez vécu à l'Odéon la semaine dernière, où des jeunes ont voulu rentrer à l'Odéon et on leur a envoyé la police. Et je crois que c'est symptomatique d'une chose vraiment très importante, c'est que on pose la question de l'héritage de mai 68, mais on veut que ce soit encore ceux de mai 68 qui parlent. Et on ne veut pas que les héritiers parlent. Mmh. C'est-à-dire ceux qui héritent de mai 68, on ne veut pas les entendre. Et je trouve que c'est vraiment très important de marquer ça, parce que les héritiers de mai 68, ça veut dire les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui auraient des choses probablement à nous dire, peut-être désagréables à entendre, mais qui ont certainement des choses à nous dire, eux, ils font face, par exemple, à une jeunesse qui s'est engagée avec Daesh. Eux, ils font face avec la question des réfugiés, de la migration. Ils font face avec la question du nationalisme, avec le chômage. Toutes ces questions qui colorent aussi la couleur, la peau. Quand on va dans les manifestations aujourd'hui, c'est beaucoup plus coloré qu'en mai 68, ou en général, les photos que nous avons montrent surtout des Français blancs dans la rue. Et il y a quelque chose en sous-texte qui tout à coup apparaît par l'absence de cette parole de la jeunesse d'aujourd'hui, qui semble dire quand même c'était chouette mai 68, avant c'était quand même bien, qui est quand même l'expression la plus conservatrice qui existe. Quand on dit avant c'était quand même c'était bien la France d'avant quand nous étions ensemble.
C'est-à-dire qui est quand même mai 68 c'était, plus... c'était un mois de conquête, quand mai 2018 serait un mois de nostalgie.
Oui, ça ne dit pas ça, mais il y a quelque chose de ça qui se dit par l'absence de la parole des jeunes d'aujourd'hui. Et qui finit d'une certaine façon, au fond, à donner peut-être un envie de parricide quelque part. Voilà, je voulais arriver à ça.
Je vais vous venir parce que vous allez nous conseiller à la fin de cette émission un livre sur l'histoire du parricide, pas mal, bien amené. Philippe Manière et puis Elisabeth Roudinesco.
Non, je crois qu'on est, on partage à peu près l'idée que filer les métaphores au-delà de l'effet calendaire et d'un certain nombre de signes serait déraisonnable. Cependant, moi, je voudrais revenir sur ce que disait à l'instant Elisabeth Roudinesco sur un point qui me semble important, c'est-à-dire que vous avez dit que les inégalités s'accroissaient, etc. Ce qui n'est pas conforme à la réalité statistique. C'est-à-dire que, non, mais je vais vous dire pourquoi je pense que c'est important malgré tout d'en parler. Quand on regarde les chiffres, la France est l'un des pays où les inégalités sont les plus stables dans le temps. Après redistribution, je ne vais pas vous infliger des chiffres, mais le boulot de redistribution qui est fait par la France en allocation, en impôts, est sans comparaison dans le monde. Et encore une fois, dans le temps, il y a une grande stabilité des inégalités telles qu'on les mesure par toutes les voies possibles. Ça contraste très fort avec ce qui se passe dans certains autres pays. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a un niveau des inégalités qui est à peu près revenu à celui des années 20 ou 30, ce qui est incroyable. Donc là-bas, la question des inégalités est une question qui se voit dans la statistique de manière très spectaculaire. Chez nous, non. Cependant, il y a un sentiment, une amertume très forte dans ce pays que, pour le coup, je constate comme vous et dont je ne disconviens nullement sur ce sujet des inégalités. Et c'est curieux parce que c'est pas non plus les inégalités de sort, on le disait à l'instant, la démocratisation de l'enseignement, etc. On est dans une crise de représentation du pays qui passe par l'idée que les inégalités s'accroissent, ce qui est faux du point de vue des inégalités pécuniaires. Et en revanche, c'est pas d'ailleurs vrai non plus en termes d'égalité d'opportunité, parce que il y a une forte démocratisation de l'enseignement, mais il y a aussi une reproduction des élites, mais il y a aussi une problématique de représentation du pays par rapport à ce que disait Wajid tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'est plus le même pays homogène du point de vue visuel, les gens qui sont dans les rues ne sont pas les mêmes, et tout ça crée une espèce de macération qui rend les gens malheureux. Et ça se traduit, parce qu'il faut bien l'exprimer et que ça semble être une réalité observable, parce qu'on voit 3 milliardaires ici et quelques pauvres, il y en a évidemment, et que tout ça est très médiatisé, ça se traduit par une contestation sous l'angle des inégalités, qui est probablement le plus mauvais angle possible, parce que c'est faux, statistiquement. Mais que ce ressentiment, cette amertume existe, c'est incontestable, que ça ne se traduise pas par la bonne mesure, c'est du second ordre. Et donc là, on revient vers ce que vous évoquiez à propos de mai 68, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'émerveillement, hein, mais il y a une espèce de sentiment que le pays ne fait plus ce qu'il faut et que le pays est en échec par rapport à ses propres projets.
Elisabeth,
vous savez, l'économie n'est pas une science dure. Il y a la moitié des économistes pensent le contraire de vous. Donc,
non,
question,
ça, c'est les chiffres sont les chiffres.
Vous n'avez qu'à lire Piketty et autres.
Non, ils disent Piketty ne parle pas des inégalités de revenus.
Non. Écoutez, ça n'est pas exact. Alors maintenant, vous me dites qu'on vit beaucoup mieux en France qu'aux États-Unis, qu'on vit beaucoup mieux en France et en Europe d'ailleurs qu'au Brésil... Évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde veut y venir. Maintenant, ce qui est important, ça n'est pas ça. C'est que pour, et notamment pour les Français, c'est le sentiment parfaitement exact de perdre. De perdre un certain nombre de choses qu'ils avaient, justement, comme avantage. Et que c'est présenté...
C'est faux, ça.
Et que c'est présenté comme inéluctable. Pour moi, il n'y a rien d'inéluctable. Ça n'existe pas, cette idée-là. Et surtout que les économistes sont divisés. Alors, on vit mieux en France qu'aux États-Unis. Il y a moins d'inégalités, peut-être, mais il y en a quand même. Et elles se sont accrues. Et c'est ça qui est grave.
Alors, Gilles Finkelstein.
Et c'est ça qui est grave.
Gilles Finkelstein.
Alors, il y a, je crois, une montée assez... Il y a ce qu'on voit. Ce que vous avez évoqué, les mouvements, la ZAD, les mouvements à la fois de grève, les mouvements étudiants. Et puis, il y a des mouvements plus souterrains. Il y a une montée de l'insatisfaction, ça c'est quelque chose qui est très net, qui tient pour partie à la question des inégalités. Là, je suis ça m'ennuie, mais assez largement d'accord avec Philippe Magnien. C'est-à-dire que sur les inégalités de revenus, il y a un indicateur qui s'appelle le coefficient de Gini, qui est internationalement reconnu. La France est un des pays dans lequel cet indicateur est le plus faible, et un des pays dans lequel, y compris dans la période récente, c'est un des effets aussi de la politique fiscale du quinquennat de François Hollande, elles ont diminué. On est aussi un pays, ça c'est vrai, dans lequel la perception des inégalités, plus qu'ailleurs, est forte. On a le sentiment que les inégalités sont plus importantes qu'elles ne sont réellement. Exactement. Et ça reste très constant, quelles que soient les politiques qui soient menées. En revanche, la mobilité, et ça qui est une autre, la mobilité sociale, là, n'a pas beaucoup progressé. Et c'est un des procès qu'on peut faire à l'école républicaine, c'est qu'on est un des rares pays dans lesquels les inégalités à la sortie sont plus fortes que les inégalités à l'entrée, et dans lesquels la pauvreté, notamment la pauvreté des jeunes, est aujourd'hui une réalité très forte. Donc il y a cette montée des insatisfactions, avec d'ailleurs un élément que j'ai trouvé très frappant dans une enquête qu'on a fait, que la Fondation Jaurès a faite il n'y a pas longtemps. On demandait sur une série de mesures, est-ce que elles sont justes? Les Français disent non. Et est-ce qu'elles sont nécessaires? Beaucoup disent oui. Et ça, dans cette tension-là, on voit cette insatisfaction. Il y a par ailleurs une floraison, là aussi dans ce qu'on ne voit pas, d'initiatives un peu alternatives au modèle actuel, que l'on voit dans d'autres modes de production, d'autres modes de consommation, notamment chez les jeunes, et qui sont une autre manière d'illustrer cette insatisfaction. Et puis il y a un dernier élément, et je termine par ça, qui est peut-être l'élément qui m'inquiète le plus, qui est qu'il y a une tentation de la violence, où on s'accoutume à la violence, notamment dans la jeunesse. Alors c'est vrai d'une violence symbolique qui est celle des réseaux sociaux dans laquelle elle se développe fortement, mais c'est vrai y compris de la violence physique. Nous avons soutenu une grande enquête du CNRS qui s'appelait La tentation radicale d'Anne Nuxel et d'Olivier Galland. On a beaucoup parlé de la tentation radicale du point de vue religieux, mais il y avait aussi des éléments auprès des lycéens, donc vraiment des jeunes de 15 à 17 ans. Dans cette très grosse enquête, 20% d'entre eux accoutumés à la violence.
Alors, vous dites qu'on s'accoutumerait à cette violence-là ou à cette radicalité-là. Toujours, je reviens à ce dossier dans l'Obs, justement, cette semaine sur les radicalités. Il est expliqué que l'Élysée ne s'y habitue pas et s'en inquiète beaucoup. Il y a d'ailleurs des propos rapportés du président Macron qui dit que c'est pas sa victoire, selon lui, qui a fait apparaître ces mouvements de contestation, qu'il rappelle que Nuit Debout préexistait à son élection. Mais il dit, ma responsabilité de président, c'est de m'attaquer aux causes profondes du malaise qu'il révèle. Est-ce que le macronisme, pour vous, Wajdi Mouawad, il amplifie ces radicalités ou pas?
Je ne sais pas, je ne pourrais pas, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce que je peux, par exemple,
vous allez faire encore un pas de côté,
dire, c'est que
vous
je suis bien
mais vous êtes là pour ça.
Il y a différentes choses. Je crois que tout d'abord, je voudrais dire une chose très importante. On dit, en effet, mai 68, il y a vraiment, en tout cas, moi qui n'y ai accès que par la lecture ou par les témoignages, cette dimension du rêve, cette dimension de la manière de la...
Pardon, c'était très violent. Hein.
Oui, je ne conteste pas, mais ce que vous avez dit, qu'il y avait...
Violence, mais une espérance.
Il y avait une utopie, il y avait... Et on dit aujourd'hui, non, si... la capacité à rêver des jeunes d'aujourd'hui est incroyable, et elle prend justement des formes, des figures qui sont tout à fait étonnantes pour nous. Et c'est pour ça, je pense, que c'est très important de les écouter, eux. Ça aurait été vraiment, vraiment important, parce qu'on passe notre temps à parler d'eux. On leur donne pas la parole en leur disant « qu'est-ce qu'on ne comprend pas de vous ? Expliquez-nous, enseignez-nous ce qu'on ne comprend pas de vous. » On est tellement spécialistes, on a tellement des lectures sociétales fortes, nous avons tous des diplômes extraordinaires, nous sommes donc capables d'avoir des lectures, mais on ne les écoute pas. On ne les écoute pas, on ne leur dit pas « parlez-nous ». Dites-nous, qu'est-ce qu'on ne comprend pas de vous ?
Alors vous le faites spécifiquement, Wajdi Mouawad, puisqu'il y a eu ce spectacle justement qui consistait, notamment dont la démarche c'était de donner la parole à cette jeunesse des années 2010-2018.
Bah, en gros, ce qu'ils disent, c'est vous nous écrasez, vous nous écrasez. Pour reprendre une des expressions, c'est, si vous voulez, le cancer naît de cellules qui refusent de mourir. Bon. Eh bien, ils ont l'impression de vivre dans une société cancérigène à cause de la prise d'impossibilité de tout. Je veux dire, le nombre de gens qui nous disent « Ah oui, moi, quand j'avais 25 ans, j'ai pu m'acheter un appartement, ça coûtait 2000 francs, bon, bah très bien. Bah, c'est plus possible aujourd'hui. » vous l'avez dit, absolument, les questions du chômage, le sida, toutes ces questions qui sont leur chape de plomb, non seulement ils doivent se débrouiller entre eux pour le traverser, mais en plus, ils n'ont pas la parole dans les institutions publiques, dans les théâtres nationaux, dans les radios, dans les journaux importants, ils n'ont pas la parole.
Philippe Magnat.
Rapidement, ils ont la parole sur les réseaux sociaux.
Il faut bien qu'ils se débrouillent.
Philippe Magnat.
Non, j'ai pas une connaissance suffisante de cette génération pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que disait Wajdi. Je pense effectivement sur les réseaux sociaux, vous avez raison Elisabeth, c'est impressionnant de voir en revanche effectivement le... Jamais autant de monde a eu la parole. Donc après, si on veut une parole institutionnalisée, oui, elle est plus difficile à obtenir et probablement qu'on la leur dénie, comme tous les aînés ont toujours dénié la parole aux plus jeunes. Mais enfin, jamais autant de monde n'ont pu s'exprimer aussi librement, avec tous les inconvénients qu'on sait, mais enfin aussi les bénéfices. Si on veut s'exprimer aujourd'hui, c'est infiniment plus facile qu'il y a 10 ans, et a fortiori il y a 50 ans. Donc cette histoire de la parole captée, moi je suis pas sûr de comprendre bien. Quant à la chape de plomb, je la comprends, et en particulier sur l'immobilier, vous avez bien fait d'évoquer, parce que parmi les rites initiatiques classiques, il y avait l'accès à la propriété, en tout cas arriver à vivre dans un... Et aujourd'hui, c'est devenu presque impossible. Je pense que c'est un des blocages, et c'est là où l'émerveillement, le trivial se recombine, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à passer, fût-ce sur un mode très trivial, c'est-à-dire j'ai pas les moyens de louer un appartement, etc., au stade supérieur, alors il y a quelque chose qui attente à la symbolique de l'accès à quelque chose.
Merci Philippe Magnat. Quelques conseils de livres ou de films ou de podcasts pour aller plus loin sur nos deux problématiques du jour. Moi, bien sûr, je voudrais vous inciter à faire cette balade sonore que vous propose France Culture, Mai 68 Retour au Quartier Latin, un documentaire itinérant pour revivre Mai 68 en son 3D dans les rues de Paris ou chez soi avec cette balade sonore géolocalisée qui permet de se promener dans le Quartier Latin en écoutant et en revivant Mai 68. Elisabeth Roudinesco.
Je conseille les mémoires 1 et 2 de Simone de Beauvoir qui viennent de passer dans La Pléiade, dirigée par Jean-Louis Janel, Éliane Lecarme et la fille de Simone de Beauvoir, Sylvie Lebon Beauvoir. Et c'est la reprise de ce qu'il y a, à mon avis, de plus extraordinaire chez Simone de Beauvoir, c'est la mémorialiste.
Ouais, je dis, moi, Wade, vous vouliez nous parler d'une histoire du parricide au 19e siècle en France.
Oui, ça s'appelle La mort du vieux, par Sylvie Lapalu. C'est une histoire du parricide au 19e siècle en France et c'est un livre qui permet véritablement, à partir de 972 cas de parricide, de comprendre au fond la question de la famille française après la Révolution et jusqu'à la Grande Guerre.
Le fameux triptyque Dieu, le roi, papa, Philippe Magnat.
Non, je voudrais mentionner un livre qui est sorti il y a 4 ou 5 ans, mais qui me semble très utile par rapport à la première partie de notre échange, qui est le livre d'Ari Shavit, Le Triomphe et la Tragédie d'Israël, si je me rappelle bien le titre, qui à mon avis est extrêmement honnête et qui est une excellente clé à la compréhension de ce qu'est aujourd'hui Israël dans toute son immense complexité, des folies nocturnes de Tel Aviv, aux extrémismes qu'on a évoqués.
Et vous avez lu Henri Weber,
un livre qui est sorti il y a 4 ou 5 jours, et pas il y a 4 ou 5 ans, le livre d'Henri Weber, premier tome de ses mémoires, sa période trotskiste, Rebelle jeunesse, qui est à la fois passionnant sur mai et sur l'après-mai, mais aussi sur le parcours d'une famille et d'un homme, qui est un livre généreux et émouvant.
Merci beaucoup, Géphine Kochkan, Philippe Magnat, Wajdi Mouawadé, Elisabeth Roudinesco. Merci d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à l'ISCOM qui l'a réalisée aujourd'hui, à la technique, Cédric Châtelus, Sofiane Merfou et Dimitri Scapolan. Merci à eux. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Alain Crugère. On ne parle pas la bouche pleine. À dimanche prochain.